Stéphane, comment ça va?
Ça va bien toi?
Ça va? Pas trop raqué du bootcamp?
Non, toujours A1, un petit peu fatigué, mais pas magané.
Moi, quand correct. Les jambon, fromage ont fait la job?
Écoute, comme maman les faisait, c'est succulent.
Sans croûte?
Les croûtes étaient là.
Hey, bootcamp, 3 jours, 3 entraînements par jour. 1 à 2 heures entre chaque entraînement. 3 entraînements pour les mêmes groupes musculaires dans la même journée. Comment t'as trouvé ça?
C'était intense. Surprenamment, musculairement, j'ai pas trouvé ça aussi tough que j'allais penser. Mais beaucoup plus au niveau, mettons, du système nerveux. Je sentais que la fatigue, elle arrivait beaucoup plus vite. Tu sais, j'ai fait du sport longtemps quand j'étais plus jeune. Puis on dirait que c'était... Tu vas chercher le même niveau de fatigue neurale, mais au niveau musculaire, ça allait. Ça, le lendemain, ça faisait mal, mais je dirais, j'étais habitué de m'entraîner, puis à ce niveau-là, j'ai récupéré assez vite au niveau musculaire.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça aurait été pire si on avait fait un gros entraînement vraiment là, intense de 2 heures, puis qu'on serait sorti du gym, que de faire 3 entraînements de 50, 60, 70 minutes, mettons.
Là. Ouais.
Je sais pas ce que t'en penses, là, mais selon moi, ça l'a aidé même de faire 3 trainings au lieu d'en faire un seul gros. T'es-tu entraîné cette semaine à la date?
Ouais, j'ai laissé. Enfin, on a fini dimanche. Lundi, j'ai pris la journée off d'entraînement complètement. J'ai mangé beaucoup. J'ai recommencé mardi avec un entraînement vraiment pas beaucoup de volume. Focusé vraiment plus sur une grosse série plus tough pour chaque exercice. Ça allait quand même bien. Puis hier, qui était mercredi, je me suis retenté à ce niveau-là, même principe encore là, mais je sentais vraiment que, justement, le point de vue système nerveux, j'avais pas récupéré, mes charges paraissaient quand même lourdes, ouais. J'avais pas le même niveau d'aisance, mettons.
Système nerveux avait pas repris le dessus de la fin de semaine. Là.
Non, vraiment pas.
Parce qu'il faut dire, c'était pas des entraînements avec des élastiques, là. Puis, puis le poids du corps, c'était quand même des bonnes charges, des longs, des tempos contrôlés. Puis il y avait autant de la force que de l'épuisement musculaire dans ce qu'on a fait.
Ouais.
Fait que, ouais, puis je l'ai vécu moi aussi. J'ai pris 3 jours de congé. Pas all you can eat, mais en même temps, j'ai remarqué que lundi, je m'étais apporté des lunchs. Puis je m'étais pas amené assez de bouffe, j'étais affamé totalement. Moi, j'ouvrais le gym à 6h le matin, fait que j'ai pas eu la luxure de dormir une nuit de 10h comme toi, t'as pu dormir. Mais j'avais mal à la tête, là.
OK.
J'avais mal à la tête, puis tu sais, même j'ai parlé avec mon chum Pierre-Luc de Sherbrooke, puis il me disait, tu sais, c'est probablement les déchets métaboliques qu'on a accumulés dans la fin de semaine qui se processent dans les journées qui suivent, là. Mais la seule solution, c'était vraiment de manger plus. Là. C'est la seule façon que j'ai trouvé que mes maux de tête finissaient par passer. Puis je me suis entraîné pour la première fois ce matin, après 3 jours de congé. Puis au niveau neural, je sentais que j'avais pas surcompensé encore. Là, je sentais pas que j'ai fait du speed bench puis avec une charge qui est un échauffement d'habitude. Puis tout ce filet lourd, là. Même les poids pour des exercices comme du tirage ou des biceps ou des épaules, je filais pas pendant toutes les charges.
Tu sais, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'en dans 3 jours, on a fait l'équivalent à ce qu'on fait à peu près d'habitude en 2 semaines d'entraînement.
C'est sûr.
C'est ouais. deux à trois semaines, peut-être même.
Certaines personnes, trois. La plupart exact. Des gens s'entraînent 3 fois par semaine.
Ouais. Mais tu sais, moi, je te dirais ce que tu dis pour ton lundi que... Tu mangeais, puis ça filait pas quand même. Moi, vois-tu, c'était plus pendant la fin de semaine, j'ai tout le temps l'impression de... Peu importe la quantité que je mangeais, c'était jamais assez.
Ouais,
peu importe ce que je mangeais, c'était comme pas assez pour récupérer, puis... même, je dirais, j'avais pas de fond, mais en même temps, j'avais pas d'appétit non plus, tellement on était tout le temps en train de s'entraîner tout le temps sur l'adrénaline. J'avais pas d'appétit, mais il fallait manger, justement.
Ouais. Il y a l'inverse aussi, tu sais, dans le day-to-day, souvent... J'hésite dans mes horaires à dire ah, ok là ben je vais avoir dîner à telle heure, j'ai des clients ensuite, moi j'aurais pas le temps de remanger ou bref, on time beaucoup nos entraînements avec nos repas dans notre day to day. Puis dans le week-end, tu sais, avec tous les entraînements qu'on faisait, il n'y avait pas de timing de repas. Là. Tu mangeais puis souvent 30 minutes après, t'étais dans le gym en train de forcer.
Ouais.
Puis ça allait bien, tu sais. Il y a quand même plusieurs leçons à tirer d'une fin de semaine comme ça, là, que tu t'entraînes 3 fois par jour. Un, tu vois jusqu'où tu es capable d'amener ton corps.
Ouais.
La quantité, la relation calories ingérées puis effort dans, à l'entraînement, puis l'impact des suppléments, ça, on se le cachera pas, là.
Ben, je pense vraiment que, surtout dans la première journée, qui a été un entraînement qui était très demandant, c'est un entraînement juste de jambes. Pas avoir eu de supplément, je pense que personne n'aurait regardé de tofu au travers de la journée, là.
Ouais.
C'est dit, bon, on a des entraînements de jambes, ben c'est sûr que côté au niveau cardiaque, c'est plus demandant aussi. Puis ça fait aussi qu'on a plus chaud, on sue beaucoup plus, puis on perd beaucoup plus d'électrolytes, là. Moi, c'est ça que je trouvais après les deux premiers entraînements. Je trouvais que l'effort devenait plus tough, puis on arrivait tout le temps proche de cramper un peu. Puis le premier soir, c'est que j'ai trouvé, j'ai de la misère à m'endormir parce que la crampe était toujours pas loin. Même si toute la journée, à chaque entraînement, on prenait des électrolytes en masse, prenait des shakes après les entraînements. On dirait encore là, c'était pas assez. Là.
Les fins d'entraînement venaient toujours avec des maux de tête. Là. Surtout le deuxième puis le troisième. Le deuxième étant le plus intense, selon moi. Là.
Ouais.
Puis, non, c'est pas vrai. On a eu quand même des gros mouvements dans le premier, mais les maux de tête finissaient par apparaître sur la fin du deuxième, fin du troisième entraînement. Puis, tu sais, ce qui est drôle dans tout ça, c'est que le soir, ben, on s'est séparés tout le monde. On est partis chacun de notre côté. Puis, nous autres, on est allés manger au resto. Puis, au resto, là. T'es assis 45 minutes, une heure, tu te lèves pour aller aux toilettes. Oh, les crampes, puis on t'a pris des électrolytes toute la journée comme t'en as jamais pris dernièrement. Mm-hmm. Puis t'avais comme Pierre-Luc qui se lève, puis il a demandé du sel de table vraiment au serveur pour mettre dans son verre d'eau pour essayer d'arrêter de cramper. Puis ça a marché finalement. Là. C'est juste pour dire à quel point l'impact de ce que tu vas bouffer dans un week-end de même, puis les suppléments que tu vas utiliser, puis la quantité d'eau que tu vas boire va jouer sur ta récupération puis sur ta performance.
Ouais, vraiment. Puis, tu sais, ça me rappelle un point que tu as dit pendant 20 semaines, que toi, tu disais que ça te rappelait un peu quand tu joues au football universitaire.
Totalement.
Tu avais les camps d'entraînement parce que tu as deux entraînements par jour. Là.
Ouais. Ben, en fait, quand tu finis une journée d'un camp d'entraînement de football, c'était universitaire, t'es au mois d'août, il fait 30, 32, 35 degrés. Tu fais une pratique, tu te cognes, tu te tapes dessus, la chaleur, l'équipement. Ensuite, tu t'en vas manger, tu te reposes, tu as un autre entraînement. Puis à la fin de la journée, mais surtout à la fin de la première, mais surtout à la fin de la 8, la 10e journée, quand tu sors de là, tu as mal un peu partout, mais tu sais pas clairement une place que tu as vraiment plus mal que les autres. Bref, juste pour dire qu'à la fin des journées de trois entraînements du genre dans une même journée, tu finis ta journée et t'es comme aïe, je suis drainé, j'ai mal, j'avais mal au trapèze tellement qu'on avait fait on avait fait plusieurs séries de squats. Ton corps réagit de partout.
Mm-hmm.
Fait qu'en bout de ligne, on dirait que t'as fait un full body workout, mais t'as fait des jambes. Fait que c'était un peu le feeling que j'avais d'avoir donné tout ce que j'avais pendant peut-être 4h30 au total dans la journée, 4 ouais. heures. Puis que t'es brûlé, puis tout ce que tu veux, c'est aller chez vous, manger, prendre une douche, puis être assis. Là.
Je pense juste aussi que faire un week-end comme ça, je pense que tous les entraîneurs, préparateurs physiques, entraîneurs dans des gyms, même peut-être à la limite des entraîneurs de sport là, spécifiquement, tout le monde devrait vivre ça au moins une fois, parce que justement, des fois, tu fais vivre ça à certaines personnes, faut que toi-même, tu l'aies vécu pour comprendre c'est quoi. Puis comprendre aussi justement les enjeux derrière ça. Puis comme on se répète, mais tu sais, l'importance justement de l'alimentation et les suppléments, parce que c'est facile justement être exemple coach de foot puis dire je vais faire deux pratiques par jour, mais si tes joueurs n'ont pas l'alimentation et récupération nécessaire pour faire deux pratiques par jour pendant justement plus d'une semaine, ben c'est sûr que les performances et la récupération ne seront pas nécessairement là.
Non, c'est clair. Puis tu sais, dans une fin de semaine comme ça, tu regardes ce que tu manges comparativement à d'habitude, puis à la fin du week-end, je sais pas si tu t'es pesé.
Non.
J'avais perdu 3 livres, peut-être 3-4 livres, mais tu sais, dans le week-end, dans une journée, là, tu manges probablement la quantité de bouffe que tu vas manger normalement en 2 jours. Tu sais, puis c'était pas toujours obligé d'être de la bouffe clean. Tu sais, on faisait des jokes parce qu'on était, au resto. Juste en haut ici, pas loin, à place Sainte-Foy, puis on mangeait, tout le monde prenait des burgers, des frites, du ketchup, let's go, là, de la liqueur même, puis tu sais, des verres d'eau un après l'autre, puis finalement, 30 minutes après, on était dans le gym, on finissait l'entraînement, puis on aurait dit qu'on n'avait rien mangé. Puis le soir, les steaks, les patates, le pain, tout y passait, dans le fond. Là. Le but, c'est quand même d'avoir de la bonne calorie, malgré tout. Là. Mm-hmm. Des bons aliments, mais d'avoir de la calorie à la base. Là.
Ben, ce qui est dur aussi dans une fin de semaine comme ça, c'est d'avoir des aliments qui vont être vraiment denses en calories, sans pour autant être mauvais pour la santé en tant que tel. C'est là que ça devient difficile. Moi, personnellement, ce que j'avais, c'est... j'avais amené du jus d'ananas. Il y avait Pierre-Luc qui avait apporté du pentacarb, donc des glucides en poudre. Sinon, je m'étais amené des galettes de riz juste pour avoir de quoi qui se mange rapidement, qui remplit pas trop, puis t'amènes des calories. Puis sinon, ben, c'est sûr, un autre de mes alliés qui a été pendant la fin de semaine, c'est de quoi que je mange moins souvent, mais j'étais en beaucoup de pain. Je regarde le samedi soir, j'avais un barbecue chez des amis, j'ai pris deux portions de pain-là du riz espagnol. Puis, j'ai un autre de mes amis après ça qui avait fait des burgers. J'ai mangé trois burgers après, puis c'est comme si j'avais rien mangé. Là. C'est surprenant de voir la quantité de bouffe qu'on peut manger, justement, après trois gros entraînements comme ça. Là.
Ouais, puis aussi de voir que le fait que le lendemain, tu reviens au gym, puis que tu recommences, puis une fois que la roue est partie, ça y va. Là. C'est comme si ça y va sur le pilote automatique, puis... C'est sûr qu'on prenait les précautions pour que ça fonctionne aussi, qu'on soit capable de faire les trainings. Là, on parle de suppléments, les électrolytes, mais il y avait aussi du magnésium, des shakes de protéines, des barres de protéines. À un moment donné, je combinais avec des Gatorade, des bouteilles d'eau. Tu veux être toujours le plus possible à ton 100% pour le moment où tu fais tes séries. Ouais. Puis c'était la réflexion qu'on avait après, quand on a analysé tout ça, on se disait, aïe, tu sais, quand même, je sais pas jusqu'à quel point tu prends 10 personnes dans le gym puis qui ont pas nécessairement des gros passés d'entraînement, tu es capable de leur faire vivre quelque chose comme ça parce qu'ils ont pas la notion, des fois, de ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont absorber comme en bouffe et en supplément, puis l'effort qu'ils sont capables de déployer dans le gym ensuite. Là.
Je pense que tu l'as nommé, justement, t'as mis le doigt dessus, là. L'affaire la plus importante là-dedans, c'est l'effort.
Ben, c'est clair.
Justement parce que beaucoup de gens justement vont dire oh, « je m'entraîne trois fois semaine, deux heures de la fois. » Mais la réalité, c'est que si ton intensité n'est pas là, que tu t'entraînes 10 heures par semaine, ça ne donnera pas grand-chose comparé à quelqu'un justement, qui va s'entraîner trois fois semaine, mais peut-être 45 minutes, une heure, mais relativement intense. Là. C'est la première chose que je vois quand on a des nouveaux clients qui rentrent dans le gym, des gens qui n'ont jamais été suivis en privé, c'est dès leur premier entraînement, bien souvent, ils se ramassent à lever plus lourd qu'ils ont jamais levé dans toute leur vie. Puis c'est là que les résultats arrivent. Là.
C'est clair. Puis ils n'ont pas la connaissance de leurs limites non plus.
Non.
Fait que amener quelqu'un à sa limite peut permettre justement de te dépasser par la suite puis de savoir justement où ta limite. Je pense que ça peut être une belle expérience pour quelqu'un qui veut comprendre comment son corps fonctionne, jusqu'où il est capable d'amener. Des fois, c'est surprenant, tu sais, je te disais, quand on a commencé notre training de squat vendredi, je fais plus vraiment de squat, là. J'ai joué au football pendant 10 ans, puis j'ai eu, je fais de l'arthrite, puis j'ai les lombaires calcifiées, puis je fais du deadlift, j'ai éliminé les squats avec une barre, puis finalement, on en a fait trois fois dans la journée, puis je veux dire, j'ai poussé des charges quand même intéressantes que je pensais pas faire ça dans la fin de semaine parce que je me pousse jamais jusque-là ces temps-ci. Là. Fait que des fois, tu sais, ça te ramène sur un beat. Puis tu sais, là, j'aurais le goût de faire du squat. Demain, tu me diras, on fait du squat. Je vais en faire avec toi, c'est sûr. Fait que ça amène tout un aspect psychologique aussi, le fait de te pousser à bout. On pense toujours juste au côté physique, mais au côté psychologique, il y a un impact là-dessus. Là. Souvent, j'ai lu ça parce que je lis beaucoup, mais tu sais, il disait que dans un des livres que j'ai lu cette année, les US Navy SEALs, quand ils arrivent à leur maximum, ils sentent qu'ils sont plus capables de rien donner, il leur reste normalement encore 40% d'énergie. Fait que tu sais, c'est un peu le même principe quand tu fais un camp comme ça. Tu penses que tu t'es poussé à fond, puis finalement, tu pourrais prendre deux jours de congé, tu arrives le lendemain, tu le refais, tu reviens deux jours après, tu le refais encore. Tu changes de muscle, mais il reste que le corps subit les trois entraînements quand même.
Ben, le corps, ça reste justement une machine d'adaptation. Là. C'est le corps va s'adapter à ce que tu lui demandes. C'est sûr que si tu passes de pas t'entraîner à faire trois entraînements par jour pendant trois jours, ça se peut que le corps ne trippe pas tant. Mais si justement, tu es quelqu'un qui t'entraîne déjà, tu fais ça, Puis tu sais, il y a du monde qui vont le faire pendant plus longtemps que ça aussi. On parlait tantôt justement les joueurs de foot universitaires qui font deux entraînements par jour pendant le camp d'entraînement.
Ouais, 17 jours des fois même.
Le corps s'habitue, là, simplement à ce qu'on lui demande. Puis pour revenir sur ton point où ce que tu disais justement que ça nous sort un peu de notre zone de confort, toi t'allais faire des mouvements que d'habitude tu fais pas, puis finalement ça a été correct. Je pense que ça devient intéressant aussi même pour les entraîneurs d'avoir quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes qui prend le lead. Parce que des fois, dans nos propres principes qu'on utilise, parce qu'on pense que justement c'est mieux pour les athlètes, des fois on oublie certaines choses, on laisse de côté certaines choses aussi, parce qu'on pense que c'est sous-optimal, mais finalement quand on l'essaie, ben, on réalise que c'est mieux que ce qu'on pensait justement.
Ouais, puis tu vois, en fin de semaine, on a eu des entraînements qui étaient vraiment, ils tournaient beaucoup autour des tempos.
Ouais.
Puis dans notre day-to-day, j'en ai fait des tonnes d'entraînements qui comportaient des tempos spécifiques. Mais avec le temps, on dirait qu'on rentre dans un beat, comme tu dis. Il y a peu importe si tu es un entraîneur ou quelqu'un qui s'entraîne pour le fun, tout le monde a son modèle d'entraînement qu'il aime faire.
Ouais.
Fait que ça, je pense qu'on s'en sort pas personne. Puis avec le temps, ben même si on travaille là-dedans puis on est des entraîneurs, on passe par là nous autres aussi. On a notre style d'entraînement qu'on aime. Puis les tempos, c'est peut-être quelque chose qui est un peu plus chiant à faire parce qu'on a tendance à penser performance, on veut lever des charges, on veut être explosif, on veut... Tandis que le tempo va diminuer un peu cet aspect-là, puis va mettre plus l'accent sur le contrôle dans le mouvement, puis la contraction musculaire, puis en même temps... C'est des choses que j'avais pas faites depuis longtemps. Puis tu vois, il n'y a pas un muscle lundi matin que je sentais pas là, dans mon système. Là.
Ce qui est intéressant à voir aussi, tu parles des tempos. Il y avait un des gars avec qui on faisait le bootcamp en fin de semaine. C'est un bodybuilder. Puis lui, je s'entraîne beaucoup avec des tempos, mais non seulement...
T'es fort.
T'es vraiment fort. Non seulement dans les phases excentriques au niveau de la descente, mais même au niveau de la montée. C'est pas quelqu'un... tu sais, nous ici, on est dans un gym de plus de performance. Tendance que la phase concentrique, la montée, on la fasse vraiment dynamique, le plus explosif possible. Alors que lui, justement, la phase concentrique, sa montée, il a fait, oui, plus rapide que sa descente, mais juste assez en contrôle pour aller chercher un feeling même pendant la montée, au niveau du muscle.
Ouais.
Puis c'est le gars, pendant la vingtaine, qui était probablement le plus fort. Là.
Ouais.
Il a fait du dumbbell bench avec des 120 livres, 3 secondes de montée, 3 secondes de descente, comme si c'était rien. Là.
Incroyable, pareil, ça. Pis c'est pas un gars qui pèse 275 livres là.
Non, c'est pas un gars qui pèse
2,15, même pas 2,15 je pense là. Fait que c'est un gars qui, comme tu dis, il a l'habitude de travailler de cette façon là
ouais.
Peut-être moins l'habitude de travailler dans des mouvements explosifs, faire des sauts, travailler avec des bends, des trucs comme ça. Mais tu vois, il a tellement un bon contrôle dans son mouvement que toute la fin de semaine, ça s'est transposé dans tous ses trainings. Puis t'as raison, je pense que c'est lui qui s'en est le mieux sorti comparativement à un gars comme Pierre-Luc, qui est très fort, qui a fait des compétitions d'hommes forts, mais qui s'entraîne sous le même principe que nous, on travaille ici, là, plus explosif. Les phases excentriques, il a jamais vraiment travaillé avec ça, phases excentriques lentes. Fait que dans certains trainings, ça lui donnait... Le gars de 209-210 livres prenait plus lourd que lui qui en pèse 260, mettons.
Mais on va voir souvent ça, justement, avec beaucoup de sportifs qui vont être très forts en concentrique. Mais au niveau excentrique, ils n'auront pas nécessairement beaucoup de contrôle ou ils n'auront juste pas beaucoup de force en excentrique. T'sais, c'est là que ça devient intéressant de jouer là-dessus un peu. Peut-être, je sens que Pierre-Luc aurait avantage à intégrer plus de tempo là au niveau de sa force excentrique. Peut-être que... le bodybuilder dont on parle, ben peut-être que lui a l'avantage d'intégrer un petit peu plus de travail explosif justement. Mais encore là, s'il se sentir bien dans ce qu'il fait, avec les tempos qu'il utilise, pas obligé de changer une recette gagnante non plus.
T'as-tu utilisé des techniques de récupération particulières à la fin de tes journées de training ou t'as... Misé sur sommeil et bouffe uniquement. Ou...
Tu parles de scotch, non? Ouais.
J'en connais des bons. Ouais.
Non, honnêtement, le vendredi soir, je suis arrivé juste manger justement beaucoup. J'ai pris beaucoup de magnésium pendant la fin de semaine. Justement, vu qu'on s'entraînait fort, beaucoup de fatigue neurale, mais aussi justement beaucoup d'efforts au niveau musculaire, ce qui fait qu'on défait nos stocks au niveau du magnésium. Fait que ça, beaucoup. Manger beaucoup plus. Sinon, j'essaie de bien dormir, mais les deux premiers soirs, justement,
Trop hype,
l'adrénaline dans le tapis, j'ai eu de la misère à m'endormir, j'ai eu de la misère à dormir. Tout court, avec les deux premiers soirs, ça a été plutôt bof. Le deuxième soir, justement, encore la récupération, j'ai juste pris le temps de relaxer avec des amis, puis encore là, ça, j'ai eu de la misère à dormir. Puis le troisième jour, quand on a eu terminé, quand là, j'ai passé l'après-midi au soleil, j'étais relaxé, essayer d'avoir le moins de stress possible. Le soir, manger une grosse bouffe. Puis là, ce soir-là, je me suis couché quand même de bonne heure. Puis j'ai dormi à 10h30 en ligne sans me réveiller.
Fait la grosse matinée.
Ben, je pense juste que le système était complètement épuisé. Là. J'étais allé à la limite de ce que je pouvais.
Puis tu vois, on parle beaucoup de suppléments, là, mais tu sais, dans le day-to-day, des suppléments, à part des shakes de protéines, des oméga 3, de la vitamine D, des trucs comme ça, je suis pas. J'en consomme pas une grande quantité, mais tu vois, dans une fin de semaine comme ça, c'est là que tu te rends compte que le petit edge que tu as besoin, des fois, ben, tes suppléments vont t'aider à te l'amener.
Mm-hmm.
C'est juste. Des fois, je trouve que les suppléments ont mauvaise presse, puis c'est pas toujours pour la bonne raison, parce qu'il y a des excellents suppléments sur le marché.
Ouais.
Mais les gens ont comme une idée faite, peut-être négative un peu, sur les suppléments qui sont en vente un peu partout.
Ben, je pense aussi c'est tout le monde s'attend à avoir comme une pilule magique là,
ouais,
au niveau des suppléments. Puis c'est sûr que justement, si tu prends les top suppléments que tu aurais besoin mettons, pour une bonne santé, une bonne performance, c'est pas des suppléments qui vont donner des résultats instantanés. Tu verras pas les effets sur le moment, c'est plus sur du moyen court terme, moyen long terme. Fait que c'est peut-être pour ça que les gens aussi vont acheter un peu plus sur les suppléments. Puis sinon, les gens vont acheter des suppléments qui vont donner des effets immédiats, mais que ces suppléments sont moins bons pour la santé. Un exemple qui vient en tête, justement, les pre-workouts avec beaucoup de caféine, exemple dedans. Déjà que les gens en consomment beaucoup de la caféine, si t'en prends encore plus, ben. C'est là que justement tu viens utiliser de l'énergie que t'as pas, tu te draines, ouais, tu te brûles. Fait que tu sais, c'est ce genre de supplément-là où les fat burners, les testo boosters, name it, que des fois ça peut être un peu louche ou quoi que ce soit, les gens vont pas nécessairement chercher la base, qui est vraiment pas fancy, qui est pas super sexy à prendre, mais qui donne justement une meilleure santé et des meilleurs résultats à long terme.
C'est clair. Puis la bouffe des gens est pas optimale non plus.
Non, vraiment pas.
Ça, c'est la base de tout, en fait. Là. T'sais, on passe des tests au gym ici à tous nos clients qui rentrent. Puis dans les questions qui concernent l'alimentation, tu te rends compte que la plupart des gens mangent probablement la moitié de la quantité de protéines qu'ils devraient. Prennent assez souvent le tiers de la quantité d'eau qu'ils devraient boire dans une journée. Fait que c'est certain que si tu utilises des suppléments après, puis que tes suppléments, tu mises pas sur la qualité, il y a ça aussi qu'il faut pas oublier. Là. La plupart des gens, ben non, faudrait pas que je dise la plupart des gens, mais assez souvent, les gens vont acheter des suppléments en fonction du prix qui est payé à la, ouais, caisse. Mais un bon supplément, c'est comme un vêtement de qualité, c'est comme une voiture de qualité, il y a un coût pour ça. Puis à un moment donné, je pense que t'es mieux d'en prendre moins, puis de prendre ce que tu prends, ben d'acheter des trucs de qualité qui vont vraiment t'aider. Là.
Ben en fait, la fois aussi, c'est que la relation de prix avec la qualité d'un supplément, c'est pas nécessairement proportionnel à la qualité. C'est pas parce que tu payes moins cher que tu vas avoir. Si, exemple, tu payes la moitié du prix, t'auras pas la moitié de la qualité. Des fois, tu vas avoir juste aucune qualité, puis aucun bienfait.
Exact.
Faut pas penser que je c'est pas comme un.
Les normes, la gestion des normes pour ce qui est contenu dans tes suppléments, c'est différent Canada-US, là. Ça, je suis conscient de ça, mais t'es mieux de choisir des compagnies qui sont fiables que d'aller pour la compagnie qui t'offre les pots qui sont toujours à rabais avec des éclairs, mm-hmm, ou des flammes qui sont peut-être pas top-notch côté qualité. Là.
Mais j'ai déjà vécu l'expérience avec du magnésium. J'avais acheté quasiment gratuitement un pot de magnésium d'une compagnie X que je nommerai pas. Puis c'est pour le pot, le prix a l'air attrayant, c'est pas cher, tout ça. J'en prenais, puis sur le long terme, je voyais pas de résultats au niveau, parce que moi je prenais ça pour ma récupération, pour un meilleur sommeil, puis je voyais aucun résultat. Mon sommeil s'améliorait pas, puis j'en prenais en continu. Puis je suis allé consulter quelqu'un, la personne me disait cette compagnie-là, ça vaut pas grand-chose, fait que switch pour une autre. J'essaie avec l'autre, puis en dedans de quelques jours, justement, je faisais des nuits en continu, je dormais bien, je récupérais super bien aussi. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que même la meilleure compagnie était meilleur marché que la moins bonne compagnie. Simplement parce que le fait que l'autre compagnie, la compagnie que j'ai arrêté de prendre, leur marketing était basé beaucoup sur la grosseur du pot. Fait que d'un, t'avais comme 90 caps au lieu de 120 avec la meilleure compagnie. Puis les caps contenaient moins de magnésium par unité que l'autre. Fait qu'en bout de ligne, je payais moins cher, mais j'avais comme... Je sais pas, le prix était peut-être 5$ moins cher, mais j'avais à peu près le quart de la quantité que j'avais avec l'autre compagnie.
Ok.
Fait que déjà, là, c'était meilleur marché de prendre un supplément de meilleure qualité. Là.
Ouais. Moi, c'est sûr que j'ai PL qui me donne des renseignements assez régulièrement là-dessus. Ça fait que puis PL, c'est un gars qui est qualité. La qualité va passer avant tout.
Mm-hmm.
Fait que j'ai toujours été habitué de penser de cette façon-là. Puis... Si j'avais à te demander, c'est quoi les trois choses que tu retiens de ton week-end qui t'ont comme marqué?
Bonne question. Je pense que une des choses qui m'a plus surpris, c'est qu'on a intégré les mouvements qu'on est moins habitué de faire. On a fait un pont, un genre de hip thrust, mais appuyé sur la tête, pour travailler le cou. C'est de quoi des fois qu'on a moins tendance à venir cibler, puis j'ai été agréablement surpris par... l'efficacité de l'exercice.
Le feeling,
parce que des fois on a tendance à penser justement si j'entraîne un muscle, je vais être tête après, je vais être pogné, mais justement au contraire, pendant que mes muscles au niveau de mon cou sont un peu faibles, je me sentais mieux, mon cou était plus mobile, beaucoup plus solide. Fait que pour les athlètes, exemple dans les sports de contact, tout ce qui est sport de combat, football, même dans les sports d'équipe, je pense que c'est de quoi que je vais intégrer de plus en plus, qui est quasiment primordial. Deuxième chose, je pense que c'est plus de par l'expérience, de voir à quel point le corps est capable de s'adapter à ce qu'on lui demande. Fait que, juste comme tu parlais tantôt, on mangeait beaucoup, puis on s'entraînait pas longtemps après, puis tout allait bien. Fait que je pense aussi que des fois on se stresse un peu trop avec des petits détails au niveau de l'entraînement, puis qu'en bout de ligne, le corps va s'ajuster en fonction de ce qu'on lui donne. Troisième point. Vite comme ça. Prendre l'intégration de tempo plus lent dans les phases concentriques. C'est de quoi justement que je fais pas beaucoup. Je joue pas avec les tempos. J'intègre des pauses pour créer une grosse contraction, créer un stretch. Je travaille avec des tempos plus lents, mais en concentrique, je travaille toujours vraiment de façon explosive. Puis là, j'ai vu à quel point il est capable de venir cibler des points faibles, de mieux sentir tes muscles avec des tempos plus lents concentriques. Donc, intégrer plus ça, exemple à la fin d'entraînement. Juste pour aller chercher, exemple, une pompe, un feeling musculaire de plus. Toi, ouais. De ton bord?
Moi, je te dirais, c'est le concept bootcamp. Tu sais, puis on s'entend, le concept bootcamp, pas sur une optique, on fait des jumping jacks, de la corde à danser, puis on fait des intervalles sur vélo. Tu sais, entraîner trois fois une région, des groupes musculaires dans une même journée, puis faire la même chose le lendemain, le concept du bootcamp. Je savais que ça existait depuis longtemps, je n'avais pas vraiment fait, je te dirais. J'ai adoré ça. Là. Puis l'entraînement, ça c'est la première chose. L'entraînement en gang. On travaille dans un gym, ça fait que assez souvent, je vais mettre mon entraînement dans ma journée de job où j'ai un temps libre pour le faire, puis que j'ai pas de client, puis j'ai pas de partner d'entraînement.
Ouais, ça, généralement, t'es tout seul, tu te feras pas déranger.
On était ensemble.
Ouais.
Toute la fin de semaine, puis m'entraîner avec un partner, j'ai trouvé ça motivant. Tu sais, c'est... Quand tu t'entraînes seul, t'es dans ta tête pendant tout ton entraînement, puis des fois, ben même si t'es fait fort mentalement et physiquement, puis que t'aimes t'entraîner, le petit 2 reps de plus quand t'es fatigué, la série de plus quand t'es vraiment fatigué en fin de training, le finisher que tu pourrais faire finalement que tu le feras pas, ben c'est toutes ces petites choses-là en bout de ligne qui font en sorte que tu t'améliores encore plus.
Mm-hmm.
Fait que je pense que l'entraînement avec quelqu'un, peut-être pas en tout temps non plus parce que les horaires sont pas faciles, là. Mais avoir la possibilité de m'entraîner avec quelqu'un au moins 1-2 journées par semaine, je pense que c'est quelque chose que je vais essayer d'intégrer, là. Puis la troisième chose, je te dirais, c'est les suppléments. Peut-être avoir une formule de supplément qui est adaptée, parce que c'est sûr que ça s'adapte à tes besoins aussi. Là. L'approche supplément, mais adaptée selon vraiment tes besoins, au lieu d'y aller avec les standards que tout le monde devrait prendre, ben tu sais, tu peux aller chercher une petite coche de plus qui va faire en sorte que tu as plus de résultats, tu te sens mieux. Bref, ton corps est plus à 100%. Puis tu sais, le bootcamp, après l'avoir fait, je pense que c'est quelque chose que même si tu t'entraînes pas pour être bodybuilder, bencher 500 livres ou squatter 600 livres, c'est quelque chose que tu peux répéter 2-3 fois par année. Puis pour comme te donner un air d'aller, puis que ton entraînement va être impacté pendant un mois après ça, là, tu sais, par l'intensité, par connexion au niveau mind-muscle, tu sais, d'être capable d'aller vraiment chercher tes muscles comme tu veux, les recruter, puis développer, puis briser des plateaux de force, puis je pense que ça peut être bon pour beaucoup de choses, là, autant pour hypertrophie, force, que au niveau composition corporelle. Quelqu'un qui veut se mettre en shape, c'est une bonne solution à faire pour ensuite être vraiment intense pendant un certain temps. C'est pas quelque chose que tu peux faire à tous les mois ou même non, à tous les deux mois, là, ça c'est certain, mais 2-3 fois par année, je pense que c'est logique, là, c'est quelque chose qui fait du sens.
Tu sais, puis au-delà de l'aspect physique de la chose, je pense que d'un point de vue psychologique aussi, ça peut faire du bien.
C'est clair.
Juste se retrouver en gang, avoir un focus vraiment simple pendant une fin de semaine qui est entraîné de manger, récupérer. Ça permet des fois de laisser comme certains tracas de côté, puis juste focusser sur une chose pour après ça, justement, ton entraînement paraît plus facile.
Ouais.
Fait que ça t'enlève comme un stress de plus après aussi, là.
Je pense que quand c'est bien planifié, quand les séances sont bien planifiées, puis le setup est bien fait, là. C'est sûr qu'on a eu une commandite de Pierre-Luc qui a emmené à peu près 500$ de supplément au minimum, là, en fin de semaine. Mais je pense qu'une fois que c'est bien planifié puis que tu as tout en place, là, la bouffe, les suppléments, l'entraînement, quelqu'un qui surveille les séances, qui coach, puis que les teams aussi, là, c'est sûr que ton partner va avoir une bonne influence, ouais, sur toi. Là. C'est là que tu vois aussi le côté grinder dans l'entraînement. Là. Si tu as tes jumeaux, toi, tu graphing, puis tu veux vraiment soulever des charges, puis tu es motivé, puis tu es avec quelqu'un qui est plus... c'est difficile, puis j'ai de la misère, puis j'aurais le goût d'aller m'allonger dans le divan, ben ça va t'impacter ton entraînement. Je pense que avoir la bonne personne avec toi, puis la bonne structure en place, c'est vraiment intéressant comme concept.
Non, vraiment. Puis ben, tu parlais des partners juste au... Je pense après, dès le premier workout, t'es arrivé, tu fais « Ok, Steph, je vais prendre les mêmes charges que toi en fin de semaine ou même juste pour la journée de, ouais, de jambes, alors que justement, t'avais pas fait de squat avec une barre depuis des mois. Puis finalement, ben, je pense, ouais, que tes squats ont quasiment été plus faciles que les miens, là, ouais, en bout de ligne.
J'ai fini par monter, mais c'est vrai que ça a un impact, là, tu sais. En même temps, c'est toute une histoire de momentum, ces choses-là, puis... T'sais, souvent on a des gens qui veulent se mettre en forme mais ils savent pas par où commencer. Puis des fois nous on l'a, la motivation, mais la plupart des gens ne l'ont pas au même niveau que nous on l'a. Fait que une fin de semaine comme ça, que comme je disais, tu t'entraînes pas pour faire du bodybuilding ou du powerlifting ou un sport en particulier, tu t'entraînes pour te garder en forme, tu viens t'entraîner avec 2-3 chums, tu vis ça une fin de semaine. Tu vois ton chum à côté qui souffre autant que toi pendant l'entraînement, ça te donne envie de pousser plus fort toi aussi. Il y a tout un... L'aspect psychologique est aussi fort que l'aspect physique, comme on disait tantôt, bref.
Là, par exemple, si moi, demain matin, je décide de répéter l'expérience de m'entraîner 3 fois dans une même journée, est-ce que faut que je fasse 3 entraînements pareils? Est-ce que je devrais changer le focus de chaque entraînement? J'organise ça comment?
Selon, comme je vois ça, en même temps, c'est teinté de notre philosophie ici, mais je pense que le premier entraînement serait porté beaucoup vers des mouvements explosifs. J'irais plus vers de la puissance. Encore là, on parle de haut du corps ou bas du corps. Là. Donc, première journée des jambes, premier entraînement serait explosif. Puis, ce serait des mouvements dynamiques, des mouvements d'assistance, des mouvements pour le corps. Pour essayer de travailler justement le même type d'entraînement qu'un athlète va faire. Mon deuxième entraînement de la journée serait un peu plus en force. J'irais vraiment travailler, vu que le système nerveux va avoir été activé par les mouvements puissance, ben, il devrait bien répondre dans l'entraînement en force ensuite. Puis en force, on parle pas de force max, là, on parle pas du 3 rep, on parle plus de du quelque chose comme du 3-5, du 4 à 6 rep, des mouvements d'assistance en 8 répétitions avec des tempos encore là pour ramener ça un peu plus dans la force, puis aussi le côté musculaire. Puis comme les deux premiers entraînements auraient taxé le système nerveux, j'irais plus en hypertrophie en fin de journée. Là.
OK.
Fait que je pense que ça serait un entraînement qui serait quand même intense, ça serait une journée d'entraînement qui serait vraiment intense sur le corps, là. Mais j'irais pour ça autant pour les jambes que pour le haut de corps, là.
OK.
Puis, je répéterais sur 2 jours ou 3 jours, dépendamment de la clientèle avec qui je travaillerais, puis je mettrais vraiment une structure, comme je disais tantôt, en place au niveau bouffe et suppléments pour faire en sorte que mes gens récupèrent à 100% le plus possible en chaque séance. Puis j'aimais bien le fait aussi qu'on finissait notre première séance, on avait peut-être 1 heure de pause, on embarquait dans la deuxième séance, on mangeait pas, on prenait des suppléments, des shakes, on se réhydratait, puis on se relançait dans le deuxième training. Puis entre le 2 et le 3e, là, on avait une longue pause, puis on allait vraiment prendre une bouffe, là. Fait que je pense que je garderais ce genre de cédule-là.
OK.
Toi, qu'est-ce que t'en penses?
Non, je pense que j'irais un peu dans le même sens. Puis tout le temps, justement, comme tu dis, quand c'est qu'il y a des mouvements plus explosifs, premier entraînement, deuxième entraînement plus pesant. Puis le troisième, entraînement en hypertrophie, je m'arrangerais pour que les charges soient légères. Fait que tu sais, plus on avance, plus je veux charger mes muscles, mais moins charger mes articulations.
Exact.
Fait que c'est là, comme tu dis, l'utilisation de tempo lent, où tu modifies les tempos, ou des fois, tu utilises des appareils moins conventionnels, des barres spéciales, quoi que ça, qui me limitent au niveau de mes charges, peut être vraiment bénéfique pour justement stresser le muscle, pas l'articulation.
Parfait. Je te remercie, Steph, pour cette petite rencontre-là. C'était super cool.
Merci à toi.